Bonjour à tous. Content de vous revoir ce matin. Et c'est bizarre, mais ça, pour moi, ça faisait longtemps. Je ne sais pas pourquoi cette impression, mais bon. Ouais. En tout cas, vraiment heureux de vous revoir ce matin et dans la présence du Seigneur. Encore pour louer, pour l'adorer. Mais aussi pour recevoir ce qu'il a mis sur le cœur de son serviteur pour ce temps lors de la prédication de sa parole. En tout cas, je suis heureux que vous soyez là en pleine forme. Et ensemble, nous voulons passer ce temps-là à faire monter nos louanges, à faire monter l'expression vraiment de nos cœurs reconnaissants vers notre Dieu, vers notre Père. Avant d'aller plus loin, je vous invite à nous tenir debout et je vais prier. Seigneur mon Dieu, merci pour cette sainte convocation, merci de nous avoir réunis en ton nom. Et nous sommes heureux d'être en ta présence. Tu dis, là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous croyons fermement que tu es présent parmi nous, par ton esprit, par ton amour qui nous unit. Et nous voulons ce matin répondre à cet appel par nos louanges, par notre adoration, parce que tu en es digne. Mais aussi, Seigneur, nous voulons aussi ouvrir notre cœur à ta parole, entendre ton esprit nous parler, et que nous puissions voir aussi les progrès et les fruits de ta parole dans nos vies. Une union encore ce matin en ton esprit, et que tu puisses vraiment bénir et édifier ton Église en ce matin. Nous voulons avoir cette pensée pour ceux et celles qui sont sur la route et qui voudraient nous rejoindre. Nous te bénissons aussi pour ceux et celles qui sont sur Zoom, qui assistent à ce culte par la technologie. Que tu puisses également nous unir ensemble par ton esprit, par ton amour. En Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Cette semaine, je me suis rendu compte qu'on a de multiples raisons de se plaindre. C'est pas vrai? Peut-être que je me trompe. En tout cas, moi, je me suis rendu compte, je dis, mais tu voudrais, il y a tellement de choses qu'on aimerait avoir et on se plaint. Et parfois, je me surprends dans mon babillage à discuter avec Dieu, mais avec une forme de tu dois quelque chose, tu dois faire quelque chose, tu dois agir. Et je me surprends à me plaindre souvent. Et dans la méditation, le Seigneur me dit, mais est-ce que tes plaintes n'obscurcissent pas un peu le fait que tu doives m'adorer, premièrement? C'est vrai qu'on a mille et une raisons de se plaindre. Et je pense qu'il y a une seule raison. Une raison. De louer Dieu. Et qui normalement fait éteindre toutes ces plaintes. C'est le fait que Dieu nous ait adoptés. Je dis, mais ça devrait, ça, te suffire. Je t'ai adopté. Ma grâce, comme disait Paul, te suffit. Et dans cette méditation, me rappeler que Dieu ne nous a pas appelés et ne m'a pas appelé à lui pour qu'il me serve, mais que pour moi, je l'adore. Il ne m'a pas appelé à lui pour que comme j'aimerais dire, comme un génie, comme on voit dans certains dessins animés, Aladdin, pour ne citer que ça, et qu'il exauce ce vœu. Mais la raison première de l'adoption de Dieu, du fait que je sois régénéré, c'est que je puisse le louer, que je puisse l'adorer. Et c'est son projet. C'est établir un peuple qui l'adore et qui montre, qui témoigne de l'amour de Christ manifesté à la croix. Que ce peuple témoigne de l'amour de Dieu, de ce don de Dieu en Christ manifesté à la croix. Que Dieu aime ce monde. Et voilà la raison pour laquelle nous sommes là. La raison de l'Église, la raison de chaque chrétien, de chaque enfant de Dieu, c'est de donner gloire à Dieu. Et j'aimerais lire avec vous ce matin, avant de chanter ces deux textes qui m'ont un peu poussé à cette méditation. Et ce seront des extraits d'Éphésiens chapitre 1, versets 7 à 14. Et ensuite, nous lirons le chapitre 2, du verset 4 à 9. Éphésiens chapitre 1, verset 7 à 14. Et ensuite, nous lirons Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 9. Et qui nous dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux, celles qui sont sur la terre, en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13. En lui, vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Éphésiens 2. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Je vais juste rajouter le verset 10, qui est important dans ma version, qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Le verset 10 qui rajoute que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes le plan de Dieu, le dessein bienveillant de Dieu. Et là, je me dis, mais c'est vrai. Si je peux venir devant Dieu, moi, simple mortel pécheur, si je peux venir devant Dieu, c'est par sa grâce. Et si j'ai cet accès auprès du Père, c'est par sa grâce. Et parfois, je l'oublie, je dis, mais je viens devant comme quelqu'un à qui il doit quelque chose. Mais il est bon de se rappeler que c'est par grâce que nous sommes. Que nous sommes sauvés, et que même quand je viens me plaindre devant mon Père, que c'est par sa grâce que je suis devant lui. Et nous voulons exprimer ça par ce premier chant. C'est par ta grâce, comme une prière. Parce que si Dieu comptait nos péchés, devant lui, qui vivrait? Qui vivrait? C'est par ta grâce que nous venons nous présenter devant toi. Et nous croyons que ce matin aussi, nous sommes là par grâce. Par grâce.
C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi.
Non par nos forces.
Non par nos forces ou nos efforts.
Mais par le sang de l'agneau.
Mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau.
C'est par la grâce.
C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par grâce nous voici.
Si tu
comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau.
Si tu comptais
tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Entrons purifiés par le sang de l'agneau. c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces et nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par grâce nous voici. Par ta grâce, par grâce nous voici. Par grâce nous voici.
C'est vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes là, comme je le disais, mais surtout dans sa présence, que nous pouvons rentrer dans sa présence. Et c'est parce qu'il nous a appelés à cette vie nouvelle. Nous créons pour célébrer sa grandeur. Nous créons pour crier qui il est. Être ce témoin vivant de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je suis né pour te louer. Je suis né pour célébrer ton nom.
Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour te apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, je suis fait pour toi.
Nous avons des raisons de te louer ce matin. Nous Nous avons des raisons de te glorifier ce matin. Ô Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes nés pour te louer. Nous sommes nés pour t'adorer. Toi qui nous as aimés dans notre état, qui n'a pas cherché à nous juger, mais qui nous a tant aimés. Seigneur, en ce matin, nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Personne d'entre nous ne peut énumérer tes grands bienfaits. Tu as fait de grandes choses et tu continues, notre Père, notre Dieu. Même dans la détresse, tu es là. Même quand nous traversons les eaux, Seigneur, tu es là. Tu ne permets pas que nous inondes. Nous te disons merci, Dieu d'amour. Nous te disons merci pour ta fidélité. Nous, nous sommes infidèles. Mais Père, toi, tu demeures fidèle. Tu es notre consolateur. Tu es notre appui. Tu es le rocher sur lequel nous avons fondé notre vie. Nous te disons merci, Seigneur. C'était avec un cœur reconnaissant, Papa. Oui, je suis reconnaissante. Amen. Je t'ai morte. Oh Seigneur, tu m'as ressuscité avec Christ. Amen. Tu m'as fait cette grâce d'être appelé ton enfant. Amen. Tous en ce matin, nous bénéficions de cette grâce. Nous étions loin, nous n'étions pas justes. Mais toi, Seigneur, tu es venu à nous. Tu n'as pas attendu que nous venions à toi. Seigneur, tu nous as aimés dans notre état. Nous voulons te louer ce matin. Nous voulons témoigner ta grandeur. Nous voulons témoigner ta fidélité. Et te dire merci avec nos faibles mots. À toi la gloire, Père. L'honneur te soit rendu. Au nom de Jésus. Amen.
Le texte d'Éphésiens 2 nous rappelle que nous étions morts par nos offenses, mais que nous sommes sauvés par la grâce. Et le fait que nous soyons morts rappelle que notre plus grand bien, c'est Jésus. Le plus grand bien, notre essentiel, c'est Dieu. Et je me rappelle de ce récit dans les évangiles, de cette femme pécheresse qui, en présence du Seigneur, a reconnu son péché, elle a cassé sa bouteille de parfum, elle a répandu sur Christ. Ce qu'elle avait de plus précieux. Elle n'a pas hésité à le casser et à le mettre, à oindre Christ de ce parfum de grand prix. Et nous, ce que nous avons de plus précieux maintenant, c'est notre vie. Et nous voulons, ensemble, faire cette proclamation, je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Je chanterai ta gloire malgré les circonstances, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Mais je veux, avant tout, t'offrir ce que j'ai de meilleur. Notre vie.
Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, non rien ne peut détruire. Non. aussi, je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Je chanterai.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Toute ma vie, je redirai que tu as perdu ta vie.
Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom.
Nous vont continuer à chanter l'honneur de son nom avec ce chant suivant. Je veux chanter un chant d'amour. Voulons entonner ce chant avec les cœurs reconnaissants.
Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus, mon sauveur.
Je suis heureux,
tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs.
Je suis
dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour. chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus.
Merci Jésus,
merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur.
Je suis heureux,
je suis heureux. Tu m'as donné ton nom.
Je ne veux
pas être ailleurs.
Je suis heureux,
je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour,
dans tes bras d'amour,
dans tes bras d'amour,
dans tes bras,
dans tes bras
d'amour,
dans tes bras, dans tes bras.
Pour ton sang, Seigneur, qui a coulé et qui nous a rachetés. Nous étions perdus, nous étions loin de toi. Et ton sang nous a purifiés. De la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu nous as revêtus au Père et tu nous as adoptés. Faisons de nous les héritiers de ton royaume. Faisons de nous, Seigneur, tes enfants. Et Seigneur, lorsque nos plaintes, nos difficultés nous éloignent de toi, je veux m'humilier, te demander encore pardon. Et revenir à l'essentiel. Tu es l'essentiel. Tu es celui qui nous suffit. Ta grâce nous suffit, nous dit ta parole. Et Seigneur, nous voulons le vivre. Nous voulons avoir ces cœurs reconnaissants parce que tu es bon et merveilleux envers nous. Seigneur, malgré notre petitesse, malgré notre péché, malgré nos plaintes, tu nous accueilles dans ta présence. C'est une grâce. C'est une grâce. Et merci pour cette parole, ta parole qui est la vérité, qui nous rappelle sans cesse que tu nous aimes. Aide-nous à nous approcher, à rester près de toi, près de ton cœur, s'il te plaît, Père. En Jésus. Au dernier chant, nous allons interpréter ce titre Abba Père, rappelant que nous sommes à Dieu et que c'est son projet. Jean nous dit qu'avant que, j'aime bien la Genèse, au commencement Dieu créa, et nous voyons dans le fil de ce récit du commencement, quand Dieu façonne l'homme, faisons l'homme à notre image. Et c'était depuis le départ, c'est son projet. Et en Christ, ce projet se réalise faisant de nous des enfants rachetés, rétablissant l'image de Dieu que déformée dans l'Éden par le péché. Bien avant.
Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant que le montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer, Abba Père, je suis à toi, Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.
Nous sommes son peuple et nous lui appartenons. Nous sommes l'ouvrage de ses mains, le troupeau de son pâturage. Que Dieu ensemble puisse encore nous bénir et je vais laisser la place afin que le serviteur de Dieu puisse encore délivrer la parole de Dieu pour son peuple. Je vous assois. Dieu vous bénisse.
Bonjour bien-aimés, nous bénissons le Seigneur qui nous fait cette grâce, n'est-ce pas, d'être des enfants de Dieu et d'avoir le cœur toujours attaché à notre Dieu. D'où la manifestation de notre présence dans ce lieu de culte. Et la manifestation aussi pour ceux qui se sont connectés. Cela montre notre attachement à notre Dieu. Celui que nous appelons Abba Père, n'est-ce pas? Il est notre Père. Et Jésus a dit aux disciples qui lui ont demandé, apprends-nous à prier. Il dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. C'était une relation nouvelle que les disciples ne connaissaient pas dans cette profondeur avec Dieu. Ils appelaient Dieu l'Éternel, Yahweh, le Dieu d'Abraham. Et Jésus leur réinvestit la notion de Dieu Père, celui qui est proche de nous, celui avec qui nous avons un lien de filiation. Nous sommes les enfants de la famille de Dieu. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Quelle grâce, quel privilège. Depuis quelques dimanches, nous regardons ensemble dans l'évangile de Matthieu. Nous avons parlé du thème de ne pas s'inquiéter, mais de se confier en Dieu. Et nous avons précisé que s'inquiéter veut surtout dire ne pas être anxieux, ne pas être inquiet au-delà de ce qui est raisonnable, de ne pas être noyé, titanisé par la peur du lendemain. Car de toutes les façons, nous ne le connaissons pas le lendemain. Il n'y a que Dieu qui le connaît. Nous avons aussi dit que s'inquiéter ne veut pas dire ne pas planifier, ne veut pas dire ne pas prévoir, ne veut pas dire ne pas travailler, non. Ne pas s'inquiéter du lendemain veut dire ce qui est à notre portée, faisons-le avec la force de Dieu. Ce qui n'est pas à notre portée, confions-le à Dieu, car c'est lui qui sait. Et il dit qu'il prend soin des oiseaux du ciel, qu'il prend soin des lys des champs, à plus forte raison, nous qui avons du prix à ses yeux, nous qui sommes ses fils et ses filles. Et Teddy nous a encouragés, toujours dans cet évangile de Matthieu, à ne pas oublier que même dans l'épreuve, Jésus est dans la barque. Même dans l'épreuve, Jésus est dans la barque. Et j'ai aimé cette application qu'il nous a partagée en nous posant une lecture que lui-même il a faite de ce texte. Il a dit quand Jésus est intervenu, les disciples ont été étonnés. Ils ont dit, mais quel est cet homme qui est capable même de dominer sur les eaux et sur les vents? Et Teddy a dit, mais finalement, quelle réaction ils attendaient de Jésus? Parce qu'ils sont étonnés qu'il ait fait ces miracles. Certainement qu'ils attendaient que Jésus les aide à vider l'eau de la barque aussi. Donc ils attendaient peut-être une solution toute humaine. Et Jésus leur montre qu'il est Dieu tout en étant homme et que sa solution peut toujours nous surprendre. Jésus est dans la barque, même dans l'épreuve. Ne l'oublions pas. Et ce matin, j'aimerais continuer dans cet évangile de Matthieu, toujours dans ce qu'on appelle ce chapitre 8 au chapitre 9, nous encourager dans une autre dimension de ce que Jésus jusque-là a manifesté. Jésus a manifesté cette autorité par la parole, et les disciples d'alors ont reconnu qu'il était celui qui maîtrisait la parole. Quel est cet homme dont la parole a autorité? Avec ce que Teddy nous a introduit dimanche dernier, on a commencé à voir qu'il avait autorité. Au-delà de la parole, il avait l'autorité aussi dans l'action, n'est-ce pas? Même sur la nature. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu créateur. Et dans cette invitation à ne pas être inquiet, le texte disait, faites donc du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux et votre préoccupation première. Et toutes les autres choses, Dieu vous les donnera. Dans la version que nous connaissons, c'est Fais du royaume de Dieu et sa justice ta première préoccupation et Dieu te bénira des autres choses de la vie quotidienne. Et j'aimerais voir avec nous 5 manifestations de 5 croyants ordinaires qui ont eu un acte de foi dans leur Dieu. Quelquefois, nous sommes en lutte dans l'épreuve ou même dans la vie. Simplement, lorsque nous sommes chrétiens, nous sommes en lutte quand nous ne voyons pas ou quand nous ne percevons pas comment la parole de Dieu se manifeste dans le concret de notre situation ou de notre vie. Et cette lutte fait que on peut contrebalancer le fait que la Bible est la norme qui me conduit. Parce que peut-être le doute sur l'efficacité de la manifestation de cette parole commence un peu à nous titiller. Peut-être aussi le fait qu'on ne voit pas dans le concret la puissance de cette parole s'accomplir. En tout cas, dans le délai que nous souhaitons qu'elle s'accomplisse. Et tout cela nous met dans des situations un peu de doute, de scepticisme, de « Mais Seigneur, jusqu'à quand ? Mais Seigneur, pourquoi ? Mais Seigneur, où es-tu ? Seigneur, manifeste-toi. » Ce qui, du reste, sont des expressions légitimes. Quand nous méditons le livre des psaumes, Dieu accepte toutes les expressions du cœur de David. Hein? Et Dieu accepte toutes nos expressions, même quand nous sommes un peu en froid avec lui. Matthieu chapitre 8, le premier événement que je vous invite à regarder avec moi, Matthieu chapitre 8, verset 1. Verset 1 jusqu'au verset 4. Lorsqu'il fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint qui se prosternait devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut pur de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour eux un témoignage. » Quelquefois, quand on lit ces évangiles, on se dit, « Ah là là, c'était bien à l'époque. » Dieu faisait des choses incroyables. Est-ce que le test nous a été donné pour dire ça? Non. Le test est là pour rendre témoignage que Jésus est capable de répondre aux situations, aux besoins, aux difficultés de ceux qui lui font confiance. Ce lépreux, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui. Combien d'années était-il lépreux? Nous ne le savons pas. Mais s'il est lépreux à ce point, ça veut dire que ce n'est pas hier qu'il a été lépreux. Pour que la lèpre soit au niveau où on l'appelait lépreux, ça veut dire que la maladie a parcouru un certain temps dans son corps et qu'il arrivait à un stade incurable où il a besoin d'un miracle. Donc ça fait un certain temps qu'il est malade de cette lèpre. Ça fait un certain temps qu'il cherche des solutions. Lui, c'est un juif. Il sait que Dieu est capable de faire des choses dans le passé. Mais à l'époque où Jésus apparaît, l'histoire des Juifs nous dit qu'il y avait très peu de miracles pendant 4 siècles. Entre la fin de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, donc le livre de Zacharie, et l'apparition de Jésus, 4 siècles où les Juifs n'ont pas vu de miracle accompli. Et ce lépreux, il entend parler de ce Jésus. Il entend que Jésus proclame la parole de Dieu et que sa proclamation est suivie d'une autorité. Et je suppose qu'à l'époque, chacun cherchait à s'informer où est-ce que ce Jésus serait à nouveau, par où il passerait. Et lui, je pense qu'il a appris que Jésus était de passage. Parce que le texte dit « il survint », donc ça veut dire qu'il a guetté ce passage-là. Et il avait une seule requête. Mais cette requête, il a fait déjà en reconnaissant l'autorité de Jésus. Le texte dit qu'il est venu se prosterner devant Jésus. Il faut savoir qu'il a eu du courage. À l'époque, la loi interdisait que les lépreux se promènent parmi les autres qui étaient saints. Aujourd'hui encore, c'est le cas. Hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un a une lèpre à un certain niveau, on le met en quarantaine parce que à l'époque, c'était encore une maladie contagieuse. Comme un peu maintenant, quand on te met 7 jours en isolement parce que tu as côtoyé quelqu'un ou toi-même tu as. Bref. Donc, il a eu du courage. Mais est-ce que c'est du courage? Il n'avait pas le choix. Il avait besoin de guérison. Et on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui était capable de le faire, qui s'appelait Jésus, et qu'il passait dans les parages. Il se prosterna. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux. Donc il ne dit pas juste, si tu le veux, tu peux me guérir, parce qu'au-delà de sa guérison physique, il voulait être réintégré dans la société. Donc il voulait que Jésus le purifie, parce que la lèpre était considérée comme une impureté. Donc au-delà de sa guérison, il cherchait sa restauration totale. Si tu le veux, tu peux me restaurer dans ma dignité d'enfant de Dieu. Jésus dit, je le veux, sois pur. Mais Jésus ne dit pas juste une parole. Jésus le touche. On ne touchait pas les lépreux à l'époque, par crainte d'être contaminé. Et le texte dit, Jésus étendit la main et le toucha. C'était déjà beaucoup pour ces lépreux de voir un homme de la carrue de Jésus le toucher, ce que les prêtres ne faisaient plus parce qu'ils étaient impurs. Ce n'est pas simplement le risque de reprendre, d'être contaminé, mais c'est le risque de te rendre toi-même impur. Mais qui peut rendre Jésus impur? Personne. Il étendit la main et le toucha. Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, il me semble que ce que nous pouvons tirer de cette partie de la parole de Dieu, de ce témoignage de la parole de Dieu, nous devons croire encore aujourd'hui que Jésus est capable d'opérer des miracles de guérison. Nous devons croire que Jésus est capable de purifier de la lèpre, de purifier de l'impureté. Nous avons le droit de venir à Jésus dans des cas de maladies que la science, que la médecine ne peut pas éradiquer. Nous avons le droit de venir à Jésus dans le cas, comme maintenant, dans ce cas de Covid. Nous avons le droit, nous avons ce privilège. Ce texte nous montre que la porte est ouverte et que nous pouvons dire Jésus, viens à notre secours. Cependant, il faut que nous ayons la même confession comme le lépreux. Il est venu, certes, avec une conviction forte. Mais il a dit sa parole et il y a 2 temps dans sa parole. Il dit, si tu le veux, tu peux. Ça veut dire, je sais que tu peux. Mais c'est toi qui décides, Jésus. C'est toi qui décides, Jésus. C'est toi qui décides, Jésus. Parfois, notre problème à nous, c'est que nous voulons qu'il soit, nous savons qu'il peut, mais nous voulons qu'il le fasse selon notre entendement. Et c'est ça qui fait peut-être que soit on est très timide à demander la guérison, soit on est très fou de demander des choses dans l'instant. Le texte nous dit, cette parole nous dit que nous sommes en droit de demander l'intervention de notre Seigneur, qui nous donne cette permission et cette possibilité. Mais que notre foi ne doit pas être juste dans cette possibilité qu'il est capable de guérir, mais notre foi doit être dans la possibilité qu'il le fera quand il le voudra. C'est ça qu'il cherche, cette confiance. Seigneur, c'est toi qui décides. Moi, je m'attends à toi. Mais toi, tu connais mieux que moi la bonne heure à laquelle tu peux intervenir. Pour le lépreux, c'était cette heure-ci. Et Jésus l'a fait aussitôt. Et il fut guéri, aussitôt. Que Dieu m'aide, que Dieu nous aide, bien-aimés. Que notre foi soit une foi vivante. Que dans les choses de la vie, nous puissions demander l'aide de Dieu avec conviction. Et que nous puissions avoir cette conviction qu'il va intervenir quand il le voudra. Or, comme il nous aime, il interviendra au moment qui est opportun pour nous parce qu'il nous aime. Deuxième témoignage, toujours cet évangile de Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 5, la suite de ce que nous venons de lire. Comme il était entré dans Capharnaüm, un officier romain l'aborda et le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison paralysé et violemment tourmenté. » Il lui répondit, « Moi, je viendrai le guérir. » L'officier romain répondit, « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient. Et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus dit, il fut rempli d'admiration et dit à ceux qui le suivaient, amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit à l'officier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à ce moment même, le serviteur fut guéri. Amen. J'aimerais tellement que le Seigneur soit en admiration de ma foi. Voilà quelqu'un qui n'est pas juif, c'est un officier romain, ça veut dire qu'il n'est pas né juif, mais qui est en service dans ce territoire qui s'appelle la Palestine de l'époque et qui envie un peu la foi des juifs et qui en plus entend parler de ce Jésus. Et puis il a son serviteur qui est malade. Donc, il se préoccupe des gens de sa maison. C'est son serviteur, mais il se préoccupe de ces gens de sa maison. Et puis il approche Jésus, il dit, s'il te plaît, la santé de mon serviteur nécessite une intervention au-delà de la médecine de notre époque. Parce qu'il est couché, il est paralysé, et il est violemment tourmenté. Je n'ai pas de solution. Et Jésus dit, tu veux que je le guérisse? Et lui dit, oui, Seigneur. Mais je ne suis pas capable de te recevoir chez moi. Il y a deux choses quand il dit ça, parce qu'il sait qu'il n'est pas juif et qu'à l'époque, un juif n'a pas le droit de rentrer dans la maison d'un non-juif. Mais la deuxième chose, c'est qu'il sait que la qualité de sa foi, il se sent impur pour accueillir celui qu'il appelle Seigneur. Et il dit, vu toutes ces conditions, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Regarde, moi je suis un sous-officier. J'ai des soldats sous mon autorité. Il suffit que je donne un ordre et les soldats l'exécutent. Je sais que tu es Seigneur. Si tu dis seulement une parole, cette parole, tu n'as pas besoin de te déplacer. Elle va s'accomplir. Jésus dit, waouh. Il dit, waouh. Depuis que je suis né en Israël, depuis que j'ai commencé mon ministère, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui a une telle confiance en moi. Et c'est même pas un juif. Et c'est même pas un juif. Et c'est même pas un juif. Il dit, c'est pour cela que beaucoup vont se convertir et qui n'appartiendront pas d'abord à Israël, qui appartiendront aux autres nations du monde. Et malheureusement, ceux par lesquels la révélation est arrivée, donc les juifs, malheureusement, plusieurs juifs ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Parce que ceux du dehors comprennent plus mon autorité que ceux de la maison de Dieu. C'est un constat difficile. Peut-être à force de l'habitude, on ne se rend même pas compte qui est Jésus. Parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils ont baigné dans ces histoires extraordinaires de Dieu, parce que dès 12 ans, là, on enseigne Dieu, Jésus, le Messie attendu. Malgré tout ce qu'il a fait depuis le début de son ministère, il y a encore des controverses, il y a encore des gens qui ne croient pas qu'il est le Messie. Et ce soldat romain, cet officier romain, lui, qui est loin de tout ce qui est la foi en Israël, entendu parler de ce Jésus, et il croit que ce Jésus est capable. Qu'il est ce qu'il est, qu'il est Seigneur, qu'il domine sur tout. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Dis seulement une parole. Et pourtant, nous avons toute la parole de Dieu. Lui dit, dis seulement une parole, et nous avons 66 livres avec toutes les promesses de Dieu. Lui dit, dis seulement une parole. Jésus dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon la confiance que tu mets dans la Bible, la parole de Dieu. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Ici, il ne s'agit pas de dire que ce que Dieu accomplit dans nos vies est en rapport avec la quantité, la qualité ou la grandeur de notre foi. Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que si tu as confiance en Dieu, tu verras comment Dieu te surprendra. Il dit qu'il faut que ta foi ose avoir confiance en Dieu, même quand les choses ne sont pas comme elles sont. Il dit qu'il faut que ta foi te donne de croire que Jésus est vraiment ce qu'il a dit qu'il est. Parce que souvent, à force de parler de Jésus, à force d'être avec Jésus, j'ai l'impression qu'il devient un peu ordinaire pour moi. Et on ne le met plus au niveau de ce qu'il est. Il est le Seigneur bien-aimé. Il est celui qui nous aime. Il nous a aimés au point de donner sa vie. Pourquoi prendrait-il pas soin de nous? Alors qu'il nous a aimés au point de donner sa vie pour nous. À l'image de cet officier romain, faisons confiance à Dieu, bien-aimé. Depuis combien de temps ce serviteur était malade? Nous ne le savons pas. Mais l'occasion se présente à lui. Il dit, je sais qui tu es. Tu es le Seigneur. Tu peux faire quelque chose. Dis une parole. Comment tu vas le faire? Il dit ça, je ne sais pas. Mais je sais que tu peux faire. Il ne dit pas, fais-le maintenant alors que je te parle. Même pas. C'est Jésus qui lui dit, vas-y. Au moment où je te parle, ça s'est déjà accompli pour toi. Peut-être que nous mettons des délais là. Seigneur, demain matin à 8 heures. Bon, peut-être 8 heures, c'est tôt, Seigneur. Si tu peux le faire vers 20 heures, ça serait bien. Je caricature, mais peut-être que nous sommes modélés un peu comme ça. Et ça nous fatigue dans notre foi. Je crois qu'il faut être audacieux comme cet officier romain. Dis notre confiance en Dieu et dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi et je sais que tu peux le faire. Troisième action. Toujours la suite du texte qu'on vient de lire, à partir du verset 14. Jésus se rendit ensuite chez Pierre, dont il vit la belle-mère couchée. Elle avait de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena beaucoup de démoniaques. Il chassait les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Esaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Marc chapitre 8, verset 23 à 27. Il monta dans le bateau et ses disciples le suivirent. Alors suivant sur la mer une tempête si forte que le bateau était recouvert par les vagues. Il dormait. Les disciples vinrent le réveiller en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si peureux, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, rabroua le vent et la mer, et un grand calme se fit. Étonné, il se disait, « Quelle est cette sorte d'homme à qui même obéissent le vent et la mer ?» Verset 28 à 34. « Quand ils eurent abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréens, deux démoniaques sortant des tombeaux vinrent au-devant de lui. » Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils lui crièrent, « Pourquoi te mêles-tu de nos affaires, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Verset 32, il leur dit, « Allez !» Il sortit et s'en allèrent dans les cochons. Alors tout le troupeau se précipita dans la mer du haut de l'escarpement et il mourut dans les eaux. Les gardiens des troupeaux s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les deux hommes qui étaient sous l'emprise des démons avaient été guéris. Là-dessus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, quand ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Trois histoires où Jésus est maître, non seulement de la nature, mais le maître des esprits aussi. Il est maître du monde invisible. Le témoignage de cette femme malade et de tous les démoniaques et tous les malades qu'il guérit, en tout cas tous ceux qu'on lui a apportés, Jésus n'a pas guéri tous les malades de son époque. Il a guéri ceux qui étaient venus le voir, ceux qui étaient venus le rencontrer. Cet épisode dont Teddy nous a parlé, où il a calmé la mer et le vent, et puis cet épisode où il y a des possédés, terriblement possédés, de démons féroces au point où personne ne pouvait les approcher, montre que Jésus est le Messie, il est le Sauveur, il est le Fils de Dieu, il est le Dieu-Fils, et son pouvoir et son autorité est sans limite. Dans un monde moderne, dans un monde développé, dans un monde ultra connecté, dans un monde où la modernité nous fait tout rikiki notre foi en Jésus, quand on lit ces textes, on se dit, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ce Jésus est encore capable de dominer sur ces choses? Si nous ne le croyons pas, on a bien des soucis. Si notre foi ne croit pas que cette parole de l'évangile est une parole véritable et que ce Jésus, il est toujours capable. Il est toujours le maître des temps et des circonstances. Notre foi est bien petite. Il ne s'agit pas de déplacer des montagnes. Le titre que je vous ai donné, c'est 5 actes de 5 croyants ordinaires. Ces gens-là, c'est des gens ordinaires. C'est des gens comme nous. C'est des gens comme nous, qui ont des problèmes, qui ont des situations, comme nous pouvons les avoir. Mais qui rencontrent Jésus, en tout cas, à un moment donné, et Jésus intervient dans leur vie. Les démoniaques n'ont pas demandé l'action de Jésus. Jésus passe par là, et il y a une situation, et les démons eux-mêmes sont en effroi. Pourquoi tu viens ici? Tu viens nous déranger. Et Jésus libère ces hommes possédés de démons. Parfois, on a peur de ce Jésus qui est capable de dominer sur les esprits, n'est-ce pas? Puisque le texte dit que les gens sont sortis, le témoignage, c'est que Jésus a guéri deux de leurs concitoyens qui étaient sous l'emprise extraordinairement maléfique de démons qui faisaient d'eux plus des bêtes que des hommes. Et la seule réponse qu'ils ont trouvée, c'est « Jésus, s'il te plaît, ne reste pas ici. » Tu nous fais peur. Tu nous fais peur. Peut-être que nous avons peur de ce Jésus aussi qui est capable de nous faire paraître aux gens comme des fous. Parce que parfois notre foi peut donner l'impression aux gens que nous sommes des fous. Quand nous croyons que tout est possible et que les gens disent « Oulala, ce que la modernité ne peut pas, vous pensez que votre Dieu le peut ?» Ben oui. Bon. On verra. Notre foi peut nous faire paraître aux gens comme des fous. Et ça peut faire peur. Et parfois, nous-mêmes, nous avons tellement peur des conséquences de notre foi que finalement, nous ne l'activons pas à 100%. On l'active à 25% parce que c'est suffisant pour l'environnement où je suis. Il ne faut pas que les gens me... Il ne s'agit pas d'être des fous pour être des fous. Il ne s'agit pas d'être des antisociaux. Il ne s'agit pas d'être des barjots. Il s'agit juste des chrétiens et des chrétiennes qui ont foi que leur Dieu est capable de faire les choses qu'il sait faire. Notre foi doit être une foi vivante, bien-aimée, une foi vivante. On ne sait même pas pourquoi on a cette pandémie depuis plusieurs mois. On ne sait pas pourquoi Dieu a laissé faire. Mais est-ce qu'on est capable de dire « Seigneur, au secours ?» Oui, je crois. L'Église peut crier au secours. Dieu, viens délivrer ce monde. Si l'Église ne croit pas que Dieu est capable, franchement, à moins que nous sommes convaincus que c'est une punition de Dieu, en ce moment, on n'appelle pas le secours de Dieu. Et même quand Dieu punit, Israël crie au secours et Dieu sauve. Bien-aimé, Dieu est capable. Si l'Église ne dit plus que Dieu est capable de mettre un terme au coronavirus, même le dit comme ça, on est des fous, hein. Ça fait peur, hein. Oh là là, il y a des gens qui croient que Dieu va intervenir dans le coronavirus. Bien sûr. Qui donne l'intelligence aux hommes? Bah, c'est Dieu. Qui donne l'intelligence à la science? Bah, c'est Dieu. Ah, si c'était pas Dieu, ils auraient déjà trouvé le... Déjà, même le corona, on l'aurait pas eu, puisqu'on est capable de tout prévenir, de tout repousser. Là, on n'y arrive pas. Bien, ma conviction, c'est que quand je lis des textes comme ça, où Jésus est capable de faire des choses extraordinaires, je me dis, je suis petit dans ma chambre, mais si je dis, Dieu, tu peux intervenir, il faut que j'aie confiance qu'il peut intervenir. Mais il intervient quand il veut, quand il a décidé d'intervenir. Mais si son peuple crie à lui, il entend. Il dit, Moïse, lève-toi, ce peuple a crié à moi, c'est l'heure de la délivrance. Va délivrer mon peuple. Ça a pris 4 siècles à Israël de pleurer devant Dieu. Mais ils n'ont pas cessé de crier à Dieu, bien-aimés. L'avant-dernier. Là, on est dans l'évangile de Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Marc chapitre 2, verset 1 à 12. Quelques jours plus tard, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassembla, si nombreuse, qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais il ne put pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montèrent sur le toit en terrasse, défient la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouverture, fit glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait aussi là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. « Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient en eux-mêmes. Il leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés te sont pardonnés » ou bien « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors il déclara au paralytique, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jamais rien vu de pareil. Deux actions sont marquantes. Une fois de plus, des chrétiens, des croyants ordinaires ont un ami qui est dans une situation compliquée de santé. Ils apprennent que Jésus est là dans la ville. Ils savent dans la maison dans laquelle il est. Ils disent, il faut qu'on y aille. Aujourd'hui, c'est ton jour. On ne lâche pas l'affaire, on y va. Ils prennent leurs camarades, ils en vont. Par contre, il n'y a pas d'accès. Le texte dit que la maison est blindée, que la foule a entouré la maison. Il n'y a aucun accès. Ça veut dire que chacun cherche à soumettre son problème à Jésus. Eux, ils disent, nous, on a la solution. Aujourd'hui, là. On ne va pas rater cette présence de Jésus. Comme on dit souvent, ça passe ou ça casse. C'est aujourd'hui. Ils montent sur le toit. C'est même pas leur maison. C'est incroyable. Ils montent sur le toit. Ils démêlent cette toiture-là. Il faut savoir qu'en Israël, les toitures, c'est pas de trucs ondus, hein. Les terrasses sont faites d'une toiture légère parce que c'est sur celle-là qu'on sèche parfois les grains et les blés pour que ça sèche. Donc c'est ce côté-là qu'ils ont défait. Donc c'est des côtés qu'on peut refaire facilement. Donc ils savent que c'est cet endroit-là, puisqu'ils voient Jésus. Donc ils défont et ils font glisser leur ami pile devant Jésus. Jésus dit encore, waouh, incroyable. Ils sont convaincus que je peux faire quelque chose. Sinon, ils n'auraient pas pris tout ça pour rien. Que Dieu nous aide bien aimés. Que notre foi, que notre confiance en notre Dieu, que notre confiance en notre Dieu nous fasse faire des choses dans la logique de sa parole, mais avec confiance. Avec confiance qu'il est capable. Peut-être qu'il attend des actes de foi de notre part. Peut-être qu'il attend des actes d'engagement de notre part. Peut-être qu'il attend que Dieu nous aide. Et enfin, le dernier que vous connaissez, que nous connaissons tous, Bartimée, fils de Timée. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Ils arrivaient à Jéricho. Jésus et ses disciples sortis de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Lorsqu'il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouèrent pour le faire taire. Lui, cependant, criait de plus belle, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » On appela l'aveugle en lui disant, « Courage, lève-toi, il t'appelle. » À ces mots, il jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»« Maître, lui répondit l'aveugle, « Fais que je puisse voir. » »« Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Incroyable. Lui, il ne sait pas que Jésus est dans la ville. Comme d'habitude, le pauvre Bartimée va mendier, comme nous en voyons quelques-uns parfois. Mais cet épisode nous montre que Bartimée n'était pas satisfait de sa condition sociale. Il apprend que Jésus passe, il dit, mais c'est lequel Jésus dont on parle? Celui qui est le fils de David. Il dit, c'est le jour où je lâche rien du tout. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'ai dit, oh là là, Bartimée, arrête un peu. Tu crois qu'il a ton temps, le type, là? C'est quelqu'un de sérieux. Regarde la foule qui est avec lui. Reste dans ton coin, Bartimée. Bartimée dit, ça ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne reste pas dans mon coin. Il crie de plus belle. Jésus entend ce cri. Jésus s'arrête. Il dit, mais appelez celui qui m'appelle depuis. Appelez-le. Faites-le venir. Et c'est là que tout le monde va commencer à l'encourager. Notre société, on est quand même quelqu'un. Hein? Le type que tout le monde disait, tais-toi, tais-toi. Maintenant, oh, courage, prends courage, vas-y, il t'appelle. Est-ce qu'il y a une forme d'égoïsme dans ce... Je ne sais pas. Bref, il arrive et Jésus a une question pour lui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Comme si Jésus ne savait pas ce qu'il cherchait. Mais Jésus voulait qu'il exprime clairement devant tout le monde sa demande. Allait-il avoir le courage de demander à Jésus de le guérir de la cécité? On n'a jamais vu quelqu'un guéri comme ça. Il aurait pu mettre Jésus en défaut. Parce que si Jésus ne l'avait pas guéri, qu'est-ce qui allait se passer? Mais Jésus sait qui il est. Et Jésus connaît le besoin. Et il demande juste que la personne l'exprime. Et Bartimée, il sait ce qu'il va demander clairement dans sa tête. Il dit, fasse que je vois à nouveau. Point. Il n'a pas dit, Seigneur, tu sais, ça fait tel nombre d'années. Écoute, les gens ne sont pas gentils. Ma cécité fait que, franchement, si tu pouvais m'écouter. Il dit non. Il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il a une seule chose à demander, fasse que je vois. Jésus dit, bah, mon petit Bartimée, ta foi. Amen. Mais ça fait combien d'années que Bartimée est aveugle, bien-aimé? Ça fait combien d'années qu'il est aveugle, ce bien-aimé? Ça fait combien d'années qu'il est mendiant? C'est ça qu'il faut regarder lorsque Jésus intervient comme ça. C'est pas hier que Bartimée est tombé aveugle. C'est pas hier que Bartimée est mendiant. Le test nous montre que tout le monde savait que ce monsieur, ça faisait bien longtemps qu'il était là. Mais personne n'avait de solution pour lui. Je ne doute pas que les gens cherchaient à l'aider, mais personne n'avait de solution concrète. Bartimée demande sa restauration parce que s'il voit à nouveau, ben, il ne va pas continuer à mendier. Il va avoir une nouvelle vie sociale. Il va être réintégré dans la société. Il va avoir un nouveau projet de vie. Son projet de mendiant va se transformer en projet nouveau. Il ne veut plus être mendiant, le Bartimée. Oh, que Dieu nous aide, bien-aimés. Que Dieu nous aide. Que notre foi continue de croire que notre Dieu est capable. Croire, c'est connaître Jésus, bien-aimé. C'est marcher avec Jésus. C'est être en compagnie de Jésus. C'est faire connaissance avec Jésus. C'est indispensable à notre foi, cette connaissance de Jésus. La foi, c'est marcher avec lui. Marcher avec lui, c'est... Il existe, Jésus. Jésus ne veut pas parler qu'à notre intelligence. Il veut parler à notre intelligence, à notre émotion, à notre foi, à notre volonté. Jésus parle à tout ce que nous sommes. Il veut communier avec toi. Dans la méditation de sa parole, dans la prière conséquente et assidue, dans la participation à l'Église de Dieu, dans la vie de chaque jour, Jésus veut marcher avec toi. Connaître Jésus, c'est marcher avec lui. Connaître Jésus, c'est placer sa confiance en lui. J'ai confiance en toi. Même quand tout semble me dire, oh, tu ferais mieux de trouver une autre solution que Jésus. Non, j'ai confiance en toi. Ma confiance en toi ne dépend pas de l'épreuve actuelle. Elle dépend de ce que tu es. Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Les temps et les circonstances sont sous ton autorité. Le lendemain, tu le connais mieux que moi-même. Là où moi, je n'ai aucune emprise, les décisions sur lesquelles je n'ai pas d'emprise, parce que c'est d'autres qui décident pour moi, toi, tu sais qui va décider pour moi. Et tu es capable d'infléchir les gens vers moi. Jésus, cette confiance. Crois, c'est sur Jésus et dépendre de lui. Dépendre de lui, c'est marcher selon sa parole. Cette parole, elle nous engage dans des bénédictions, mais aussi dans des contrariétés, parce que parfois, suivre Jésus, c'est aller contre le courant de la société. Suivre Jésus, parfois, c'est faire des choses que la société nous dit, non, on fait autrement. Et nous, on dit, non, Jésus nous dit de faire comme ça. Croire en Jésus, c'est recevoir Jésus, le recevoir, devenir ses enfants, avoir cette filiation avec lui. Ouvrir nos cœurs, nos vies, nos projets. Ouvrir nos joies, nos peines, nos difficultés. Ouvrir nos familles, nos relations. Tout à Dieu, le recevoir dans tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous avons. Le recevoir. Seigneur, je te reçois tel que tu es. Croire, enfin, c'est obéir. Obéir à Jésus-Christ et lui être fidèle. La fidélité, c'est marcher ensemble. Quand nous sommes devant le maire, cette parole n'a plus de poids maintenant, puisque malheureusement avec les circonstances de la vie, avec la dureté du cœur de l'homme, on défait ce qu'on a fait hier, parfois à raison, parfois à tort, et parfois aussi la vie n'est pas facile. Mais la fidélité avec Jésus, elle ne se rompt pas. Il appelle, il attend. Qu'est-ce qu'il attend de ce bel amour qu'il a manifesté? C'est qu'on lui soit fidèle, bien-aimé. Qu'on lui soit fidèle. Dans cette leçon, croire implique rencontrer Jésus, le connaître, lui faire confiance, l'aimer, le suivre, le recevoir, lui obéir. Confesser ses péchés au Seigneur. Reconnaître que Jésus peut nous sauver à cause de sa mort sur la croix. Obéir à sa parole quand il nous invite à venir à lui. Cette invitation vient parfois à travers ses serviteurs. Implorer la grâce du Seigneur quand nous avons des situations. Prier pour obtenir sa faveur et le pardon de Dieu. Recevoir le pardon du Seigneur, lui faire confiance. Parce qu'il pardonne aussi, selon sa promesse. Écoutez la parole et la mettre en pratique. Peut-être ce que nous avons beaucoup de mal à faire, c'est écouter Dieu. Nous aimons beaucoup lui parler, mais nous avons du mal à l'écouter ou à discerner quand lui nous parle. Que Dieu nous aide à l'entendre, à l'écouter, à le comprendre et à obéir. Prions. Te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus que de te dire, aide-nous à avoir cette confiance en toi, à être des chrétiens, des chrétiennes ordinaires qui font confiance en ce Dieu qui est le Dieu extraordinaire. Que nous sachions au fond de nous qui tu es et que dans toutes les situations de nos vies, nous te fassions confiance, Seigneur. Tu n'as pas dit ton dernier mot, tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Voici ton Église rassemblée, donne à cette Église de rester une Église vivante, dynamique, en action pour Dieu et par amour pour les hommes. Dans le nom de Jésus. Amen.